Vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz quand j'aurai retrouvé le texte. Nous sommes le samedi 29 octobre 2011. Nos programmes pour cet après-midi à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Jan O'Dead et à 17h FMR, c'est de l'antenne à Radio Booster sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la leçon d'économie de l'Élysée que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Vous préférez le terme de cosplay ou de costumade? C'est le nouveau.
C'est une vraie question.
C'est la nouvelle traduction officielle.
Costumade?
Ouais. Et qui en plus est un terme québécois d'ailleurs,
il faut qu'on change tout le site internet d'ailleurs.
Ouais. Coup, on dirait rigolade. Costumade.
Oui,
ça me fait penser un peu à riboulade. Je sais pas si tu connais, c'était un plat qui était vendu en boîte. Avec du riz et des boulettes de viande, un peu, tu vois.
Riboulade.
Alors.
Radio éphémère. Présente le supplément week-end. Numéro 294.
La semaine dernière, le supplément week-end était avec Sébastien Laurent et Rafi de l'organisation du Tous Game Show. Et cette semaine, d'ailleurs, ce week-end, excusez-moi, c'est uniquement aujourd'hui, c'est à la discothèque Studio One qui est sur l'île du Ramier. À lieu de 14h à 22h, la TGS partie. Je crois qu'il y en a qui n'avaient pas compris exactement qu'on faisait gagner des places pour aujourd'hui et pas pour le grand TGS.
Ah bah oui.
Ça n'a pas aidé, forcément. Ceci dit, je sais pas, peut-être qu'il y aura des gens qui seront costumés en Halloween. C'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis juste sorti avec mon teint blafard de vampire à l'ancienne, gothique, manière Morose et tout ça.
Ouais, mais ça a rien à voir, les vampires, avec Halloween.
Ouais, je sais. Mais toi, c'est quel chanteur de Kiss, là, que tu as comme maquillage?
Ah ben moi, Gene Simmons, bien sûr.
Ouais, Thomas n'est pas là cette semaine. En fait, ce matin, il s'est fait le maquillage du Joker dans les films de Christopher Nolan et Mademoiselle l'a vu.
Il s'est enfoncé un crayon dans l'œil.
Non, c'est Mademoiselle qui, quand elle a vu, elle a sorti le flingue. Mais il va bien, je vous rassure, il peut juste pas s'asseoir pendant un petit bout de temps. Ceci dit, donc, beaucoup de choses quand même qui ont lieu ce week-end. J'ai l'impression quand même, je suis désolé, en fait je croyais que c'était à cause de ma voix la semaine dernière, mais je crois que les micros côté régie sont hyper déréglés.
Non mais pareil chez nous, t'en fais pas.
D'accord.
Non, je pensais qu'il y avait juste celui de la régie qui marchait bien, ouais. Mieux que les autres, mais non, je m'en suis rendu compte samedi dernier aussi, t'en fais pas.
Voilà, non, je pensais, c'est pas ma voix habituelle où je fais des sifflantes absolument, c'est absolument déplorable. Mais ça ne se fait pas. Je vais leur apprendre à les régler les micros. Tant qu'on y est. Donc, alors, aujourd'hui, TGS partiste au discothèque le Studio One avec comme invité Marcus, le fameux joueur au gros doigt de la chaîne que je ne dirai pas, Sparadra de la Shortcom Noob, toujours de la même chaîne, le joueur du grenier qui lui sévit surtout sur internet, c'est un grand spécialiste en fait du rétro gaming et d'une critique assez constructive quand même du rétro gaming et assez décapante qu'on trouve principalement sur les sites de partage vidéo. Coucou Circus, il y aura des jeux, des spectacles, des démonstrations, principalement des party games et des jeux musicaux, fort logiquement. C'est donc tout aujourd'hui. Samedi prochain, le samedi 5 novembre, à la librairie album, Nicolas Sûr dédicacera Royal au Braque. c'est sorti chez Vents d'Ouest. Le 12 novembre, Guillaume Bouzard signera The Autobiography of Me, qui était sorti chez Requin Marteau. Il est aussi illustrateur dans Ce Foot et dans Fluide Glacial. C'est à la librairie Gilbert Joseph, et théoriquement, il sera de même ici. Le vendredi 18 novembre, Vanida, dessinatrice que l'on, que j'étais mais vraiment hyper heureux d'avoir découvert Angoulême, vraiment dans le coin des fanzines, et qu'on a vu exploser évidemment avec l'immeuble et tout cela, et qui donc sort le la fin et la conclusion de sa trilogie Celle que je suis. C'est chez Dargo, et cela sera donc le 18 novembre hein, qu'elle sera présente à Toulouse dans la librairie Album. Le lendemain, toujours à la librairie Album, Vincent et son coloriste Pierrot dédicaceront Chimère 1887, c'est chez Glénat. Sachant que le 18, le 19 et le 20 novembre, c'est le 25e salon de la bande dessinée de Colomiers, avec en invité Pénélope Bagieux, et théoriquement nous faisons émission en direct de là-bas, donc ce sera une... c'est une ambiance. Le vendredi 25, rencontre débat à Audi-Sud à partir de 18h avec la grenouille noire que l'on connaît quand même pour ce qui est pour son autobiographie et ensuite ses romans qu'il a sortis chez Ankama. On l'a déjà rencontré en fait à Angoulême. On a sorti une interview où il raconte comment il a pu s'installer en tant que directeur artistique dans le milieu des studios hollywoodiens. C'était vraiment passionnant, vraiment intéressant, et c'est quelqu'un qui est vraiment à découvrir de ce côté-là. Donc je vous recommande quand même d'aller le voir parce que ben tout simplement vous verrez plein de choses extrêmement intéressantes. PP Deluxe en fond sonore. Et on continue les sorties et annonces de dédicaces sur Toulouse avec pour continuer, ben nous aurons le vendredi 25, donc la grenouille noire, j'ai oublié de dire qu'il sera donc c'est une rencontre débat à Audi Sud à 18h, mais le samedi 26, il sera toute la journée à la librairie Album. Et le 26 et 27 novembre, c'est le Toulouse Game Show, et c'est toujours à l'espace Diagora à la Bèche. Et nous serons en direct sur place, mais peut-être même qu'on sera beaucoup plus qu'en direct. Allez savoir. Alors je disais que Thomas s'était fait trouer les fesses en tentant un maquillage du Joker, mais heureusement les fiches sont lisibles, donc il n'y a pas de problème. Et on a il a souhaité ressortir une interview qu'il a fait d'Agnès Maupré lors du festival d'Angoulême en janvier dernier, et il faut dire que c'est la dessinatrice autrice de Milady de Winter, qui était sorti chez Ankama, et c'est vrai qu'actuellement les mousquetaires sont très 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 à la mode. Après tout, surtout au cinéma, hein, je veux dire, hein, Peter Iams y avait donné une interprétation avec Catherine Deneuve très, D'Artagnan qui faisait du kung-fu sur le plafond en zigzagant entre les chandeliers, c'est assez quelque chose. Et depuis 15 jours, Paul W. Anderson, comme réalisateur, faut-il le rappeler, de Mortal Kombat et de Resident Evil, projette sa vision des épéistes du roi avec son énervante de femme Mila Jovovich en Milady de Winter. Un rôle taillé sur mesure pour l'actrice qui n'en pouvait plus de se tortiller au ralenti à buter du zombie. La vénéneuse Multipash avec sa carte, avait la carte à l'époque, forcément. J'ai l'impression qu'Orlando Bloom en duc de Buckingham, ça n'a pas spécialement marqué Thomas dans son texte, je sais pas pourquoi. Que voilà une occasion de reparler de l'excellente adaptation d'Alexandre Dumas, cette fois-ci en album BD, noir et blanc, Milady de Winter par Agnès Maupré, édité chez Ankama. Elle est loin, l'amitié virile, fraîche et joyeuse de ce quatuor de ripailleurs qui casse du bras de droit au cardinal de Richelieu en buvant des bières et en défonçant les tables d'aubergistes. Oui, Thomas garde un souvenir très ému de deux films de Bertrand Bordery avec Bernard Bordery avec Gérard Barré, Georges Descrières et Mylène de Mongeau, toute une époque. Et tout à l'heure, on va reparler quand même d'adaptation de pièces de théâtre au cinéma, mais on n'y est pas encore. Cette bande dessinée s'empare d'un destin hors norme, celui de la Bad Girl. Milady, tout de même pendue et laissée pour morte, marquée de la fleur de lys pour avoir fricoté avec un prêtre. Milady, donc usant de ses charmes pour le compte d'un cardinal qui, l'œil plein de vice, mais n'ayant Dieu que pour l'intérêt politique de la garce, a vite fait de lui mettre le grappin dessus. Alors, legal disclaimer, n'y voyez strictement aucune allusion à l'actualité politique récente, s'il vous plaît. Privée d'une vie heureuse et tranquille, la belle est condamnée à incarner la traîtrise et lutter contre les mousquetaires présentés ici comme des crétins obsédés ou des êtres abjects. L'utilisation de l'aquarelle et les superbes ambiances noir et blanc. En fait, c'est pas vraiment du noir et blanc tanché, c'est comme c'est de l'aquarelle, on a des délayés, on a vraiment de la nuance, de la matière, c'est vraiment extrêmement agréable à lire. Entre esquisse et vraie élégance de la plume, l'auteur Agnès Maupré est une artiste réellement complète et à suivre. Influencée par Reiser, ayant débuté dans le métier aux côtés de Bézian. Ouais, entre nous, hein, on fait pire quand même, comme bons auspices. Rencontre à l'occasion de la sortie de sa première BD, d'après Dumas, donc, et c'était en janvier dernier à Angoulême, au Agnès Maupré, interview par Thomas.
Agnès Maupré, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va évacuer la question Sfar dès le début. Donc, tu as collaboré avec lui sur des animés Le Chat du Rabbin. Est-ce que, alors, reconnais son influence sur ton style? Dans quelle mesure t'es-tu inspiré de son univers très tôt au début de ta carrière, ou est-ce que c'est sur le tard pendant ta collaboration avec lui?
Je sais pas si je dirais que je me suis inspiré de Johan. C'est juste que quand j'étais gamine et que j'ai commencé à dessiner, je lui ai montré mes dessins et il m'a encouragé. Donc c'est vrai que pour moi c'est une sorte de parrain. Et plus tard, effectivement, il m'a fait bosser sur son dessin animé. Donc, je peux pas dire que j'ai rien à voir avec lui, mais j'ai jamais essayé d'être influencée par Johan ou quoi que ce soit. Donc, je sais pas trop comment répondre à cette question.
Déjà, alors, ce qui frappe, c'est que ta bande dessinée est en noir et blanc. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas de couleur?
Parce que c'est sorti comme ça en fait. Au début, j'ai fait des carnets de croquis sur Milady et c'est vrai que j'ai vu ce projet en noir et blanc tout de suite. Après, il y a eu des essais couleurs qui ont été faits notamment par des amis à moi, notamment Gabriel Chemoul et Saint-Jean, qui ont fait des trucs que j'ai trouvé vachement bien, mais c'était quand même pas ça. Enfin, j'avais vraiment envie que ce soit du noir et blanc dès le début.
Et il est hors de question pour toi de faire la couleur?
Non, mais. J'ai fait de la couleur précédemment en aquarelle et c'est vrai que ça par contre c'était hors de question parce que c'est un côté frais et doux qui correspondait pas au projet. Donc je pense que si j'avais fait la couleur, j'aurais fait comme pour la couverture, du lavis et de la couleur ordi par-dessus. Mais enfin, je sais pas, quand j'ai fait la couverture, effectivement, je me suis dit que j'aurais pu faire l'album en couleur, mais ça venait en noir et blanc au début.
Alors ton style est très, alors, je sais pas, peut-être que tu vas me gifler et tout parce que je dis une énormité, ton style est assez jeté, tu laisses vivre les taches d'encre en fait, mais pourtant tu n'esquives pas du tout les détails des décors qui sont vachement présents. Est-ce que tu as beaucoup tâtonné pour obtenir ce compromis entre les détails et un côté assez spontané?
Oui, je crois que les détails ils sont un peu apparus dans mon travail avec ce projet-là et que plus j'avance, plus je me frotte aux détails et le côté jeté, c'est plutôt ce qui vient au premier. Sur un site internet qui parle de Milady, il y a écrit un style jeté, entre parenthèses, à la poubelle, j'aime bien. Je trouve que c'est assez drôle comme jeu de mots, mais...
Pas très flatteur, quand même. Les noirs deviennent très puissants pour les passages importants de la vie de Milady, quand on la retrouve au début sur l'arbre, à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important. J'ai cru remarquer que tu utilisais vachement les noirs dans le décor. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est un choix délibéré de ta part?
Un peu les deux. Je pense que les passages qui sont importants, comme effectivement la pendaison ou le moment où elle enterre son mari, c'est des moments que j'ai envie de passer beaucoup de temps sur la page, et du coup c'est très très long de faire des noirs avec des hachures nettes, et du coup c'est vrai que c'est les moments où je stagne beaucoup sur ma planche, mais c'est pas complètement un hasard effectivement.
Et est-ce que tu te l'es gardé pour les moments où tu serais moins inspiré? Allez, aujourd'hui je fais des hachures.
Ah non, en général quand je fais une planche, je la finis plus ou moins.
Ton projet d'adapter Dumas avait un fort potentiel commercial à la base, puisque tout le monde connaît Dumas, même si tu n'as pas réagi, tu n'as pas réfléchi en termes de potentiel commercial.
Pour ça.
Quand tu as démarché les éditeurs, est-ce qu'ils t'ont reproché ton style trop arty et pas assez mainstream qui aurait pu faire vendre encore plus?
Non, pas vraiment. J'ai eu un peu de mal à trouver un éditeur, mais non, on m'a pas reproché quelque chose de particulier.
Non. Comment ça s'est passé avec Ankama, justement?
Avec Ankama, très bien. Je suis arrivée un petit peu par hasard par Gabriel Chemoul, dont je parlais tout à l'heure, qui a fait des très belles choses. Ryoshi chez Cornelius et Mamotobo chez Bayou, qui est un très jeune auteur très très talentueux, et avec qui j'ai travaillé sur la production du dessin animé du Chat du Rabbin. Donc lui était en contact avec Jean-David Morvan pour un projet, et il m'a dit « Mais c'est fabuleux ce qui est en train de se faire chez Ankama, il faut absolument y aller. Envoie un mail à Jean-David Morvan. » Et puis voilà, c'est comme ça que je suis rentrée chez Ankama, et je suis très contente.
Milady a été incarnée au cinéma par Mylène de Mongeau, Faye Dunaway, Rebecca de Mornay. Est-ce que tu t'es inspirée de l'une de ces actrices pour le visage de Milady ou pas du tout?
Pas du tout en fait. Non, pas du tout.
Est-ce que tu les avais quand même en tête, ou il y en avait certaines que tu n'avais pas vues, ou est-ce que tu t'es forcée à voir plein d'adaptations justement, ou le contraire?
Non, en fait, les adaptations que j'ai pu voir cinématographiques, c'est quand j'étais petite. Et c'est plutôt ce qui m'avait donné envie de ne pas lire Les Trois Mousquetaires, donc j'ai pas essayé de les revoir en faisant le livre.
Et dans quel état d'esprit est-ce qu'on aborde un personnage comme elle qui est ancré dans l'imaginaire collectif? Je suppose que ça va être différent par rapport à un personnage que tu crées de toi-même.
Mais justement assez librement, parce que comme le roman est très très connu, et on peut pas lui faire de mal, on se sent complètement libre pour faire une adaptation. Il y en a déjà eu tellement que personne ne peut nuire à Dumas et à Laura des Trois Mousquetaires.
Avant de lire la BD, moi je m'imaginais Milady un peu en femme fatale diabolique à Sin City, un peu, voilà. Et alors en fait, quand on a la surprise quand on lit ton album, que c'est une femme qui est complètement fracassée, qui a eu des boires et tout. Pour ceux qui ne connaissent pas Dumas, est-ce que tu as beaucoup brodé ou est-ce que tu as tout pioché chez Dumas en fait?
Un peu les deux. J'ai brodé sur certaines choses, mais le postulat de départ, à savoir qu'elle a été pendue par son premier mari et laissée pour morte, ça vient vraiment de Dumas. Et c'est vrai qu'une femme qui a vécu ça ne peut pas être qu'une méchante absolue. Enfin, de toute façon, c'est quelqu'un de fracassé. Même si c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de fracassé.
Le fait de reléguer les mousquetaires au second plan, est-ce que... Bon, alors, tu as en partie déjà répondu à la question. Est-ce que c'était parce que tout avait été déjà dit sur eux et que tu t'es posé en réaction par rapport à tout ça? Ou est-ce que... dès le départ, quand tu étais petite et que tu voyais les adaptations, tu te concentrais de toute façon sur Milady? Ou comment c'est venu en fait? Puisqu'apparemment, toi, tu t'intéressais pas du tout aux Trois Mousquetaires en fait.
Non, pas du tout. Mais effectivement, quand j'ai lu Milady, je trouvais que c'était vraiment dur d'avoir gardé d'elle dans les adaptations le côté grosse méchante et d'avoir fait des mousquetaires les gentils de l'histoire, alors qu'ils se comportent largement aussi mal qu'elle.
Oui, parce qu'en fait, tu fais Donatos un être complètement retors. Chaque fois que tu le dessines, c'est, on dirait que c'est l'incarnation du diable. D'Artagnan, c'est un béné complètement con. On imagine que t'as jubilé en faisant ça, ou est-ce que, quand, de toute façon, quand tu vois les adaptations de Trois Mousquetaires, Athos, il te paraissait déjà comme un monstre?
Non, justement, Athos, il a vraiment la réputation d'être le plus noble et le plus pur des mousquetaires. Et c'est vrai qu'en lisant le livre, c'est un alcoolique, il a pendu sa femme. Il fait des trucs affreux, même à D'Artagnan. Parce qu'à un moment donné, ils ont gagné des chevaux et des selles de la part du duc de Buckingham. Et D'Artagnan, c'est tout ce qu'il a. C'est quelqu'un qui est assez pauvre. Et Athos joue le cheval et la selle de D'Artagnan au dé parce qu'il s'ennuie. Et D'Artagnan se retrouve sans rien. Enfin, c'est hyper dur de faire ça à un ami.
Alors, on va finir par la question qui fait peur. Attention, ne ris pas. En décembre 2011, je pense que tu es au courant, il y aura une adaptation au cinéma par le réalisateur de Mortal Kombat avec Mila Jovovich dans le rôle de Milady. Qu'est-ce que ça t'inspire ?
Oui, j'ai vu ça. Non, pas forcément grand-chose. J'ai regardé les photos de Mila Jovovich avec les robes 17e.
Et est-ce qu'elle va prendre un flingue dans chaque main? On sait pas ce qu'elle va faire. Elle va voler dans les airs avec la Mira qui tourne à la Matrix.
Oui, non, j'ai hâte de le voir. Oui, ça me plaira, je pense.
Tu finis en langue de bois, en fait.
De quoi?
Comment on peut avoir hâte de voir ce truc?
Bah, je sais pas. Je pense que j'avais pas envie de voir des choses sur les Trois Mousquetaires en étant en train de faire mon livre. Mais quand ça sortira, j'aurai fini. Du coup, ça... Ça me distraira, ça me fera plaisir, je sais pas.
Comme ça, tu pourras en discuter avec tes lecteurs qui viendront te demander des dédicaces.
Oui.
Bon, ben Agnès Maupré, merci beaucoup.
Merci à toi.
Toto dit. Excusez-moi. Interview donc qui a été diffusée, qui a été réalisée, excusez-moi, en janvier dernier à Angoulême. Agnès Maupré, auteuse de Milady de Winter. Vraiment un bouquin que je vous recommande et c'est donc aux éditions Ankama.
Elle est bavarde, curieuse, étourdie, souvent superficielle, mais elle est douce, intuitive, et elle aime les enfants. La femme.
Radio Éphémère 89.1 MHz, nous allons entamer les sorties BD, et d'ailleurs je suis allé trop vite, hop, à cet endroit. On va commencer les sorties bande dessinée avec... non mais là je pourrais pas répondre, il y a plus de place à gagner, c'est plus la peine. Donc je vais commencer en fait, hop, ah, les sorties avec une très bonne série. Un petit instant. Ah ok, Thomas veut rebondir, excuse-moi. Il est sur autre ligne. Thomas, bonjour.
Oui, bonjour Olivier, tout va bien?
Oui, et toi? Juste des petits problèmes techniques comme d'hab, tout ça.
D'accord. Bon, mais je viens de découvrir ton lancement de l'interview.
Non, je t'ai transmis le prompteur. Tu l'as pas écouté, t'as pas eu besoin.
Voilà, je vois quand même avec des notes de quelqu'un d'autre, tu... Mais c'est Bernard Bordery, c'est pas Bertrand.
Non, en fait, je suis énormément perturbé parce qu'on a un traitement de son qui m'empêche d'écouter les S. Et c'est particulièrement pénible. Et on en parlait avec du sport. Et c'est pour ça que je me plains depuis tout à l'heure. Et donc, j'ai trébuché sur le texte à cause de ça parce que je m'entends très mal.
Ah, d'accord. Bon, j'ai fait une coquille dans mon texte. Évidemment, c'est passé à l'antenne, bien sûr. Donc, évidemment, c'était pas Bézian avec qui elle avait débuté. C'était
ouais, ça m'aurait étonné parce que je savais pas que Bézian prenait des assistantes.
Ouais, donc... perdu mes notes pour la préparation de l'interview, donc c'est pour ça que j'avais confondu, voilà. Donc la coquille est de ma faute aussi, tu le mettras dans le résumé de l'émission.
Ah, c'est pas moi qui m'en occupe du résumé, qu'est-ce que tu crois? J'espère que tes fesses vont bien, et j'espère que, du coup, le maquillage du Joker t'y ressongera.
Comment?
J'espère que tes fesses vont bien et que le maquillage du Joker façon Nolan t'y ressongera.
D'accord. Pourquoi tu dis ça?
Mademoiselle t'a surpris avec ce maquillage, c'est tout à l'heure. C'est pour ça que t'as pas pu venir.
Ah, mais oui, bien sûr. Allez, bonne émission.
Foiré, il me casse ce truc. Ciao à toi, bon week-end et rendez-vous la semaine prochaine puisque c'est toi qui prends ma place.
Ravi de l'apprendre, première nouvelle.
Ciao. On continue avec les barbouzes avec avec les barbouzes non plus du XVIIe siècle, mais ceux un peu plus modernes du XXe siècle, puisque il s'agit de l'histoire des hommes de l'ombre de la Ve République. C'est ce que promet dans son sous-titre cette série, le service Premières Armes, année 1960-1968. C'est de Jean Blaise Digian, Olivier Legrand au scénario, Alain Payou au dessin, c'est dans la collection Atmosphère chez Emmanuel Proust, éditeur. Il y a 15 jours, on avait parlé quand même du massacre perpétré, envers la population arabe parisienne en octobre 1961, ce que l'on appelait les Français d'origine algérienne, par le préfet Maurice Papon. Imaginez quelques mois plus tard, l'Algérie est indépendante, l'empire colonial français n'existe pratiquement plus, et tous ces soldats démobilisés en métropole. Ouais, parce que s'ils seraient restés sur place, je pense qu'ils auraient eu des petites emmerdes. Surtout ceux qui, dans le bled, faisaient chanter les indigènes, la gégène, les pros de l'intimidation, de l'interrogatoire musclé, du règlement de compte, ça en fait des paras obligés de se reconvertir. Et c'est donc ces fameux hommes de l'ombre de la Ve République. Et c'est l'histoire du retour à la vie civile de Galland, un para qui, justement, a fait les basses œuvres lors des événements en Algérie. Événements entre guillemets. Revenu à Paris comme pompiste, il se fait approcher par son ancien lieutenant, François Charrière. Ce dernier a monté une officine de sécurité en marge des services officiels de police, en dehors des budgets de l'État, une association de grands démocrates, comme les décrit Michel Audiard. Une officine dédiée à l'épuration des éléments hostiles à la République. Et durant les années 60, où le rock vient des USA et les idées de l'USSR, la première mission de Galland sera de mettre au froid quelques syndicalistes avant qu'ils ne donnent de mauvaises idées à la jeunesse française. Évidemment, tous les éléments sont romancés, mais on reconnaît aisément les allusions envers certaines personnalités politiques, des membres du milieu, mais qui n'étaient pas politiquement, on va dire, au centre. Scénaristiquement, c'est assez bien amené, on imagine, bien documenté. Sur le dessin, ce qui est un petit peu dommage, c'est ce plaquage de textures, notamment des journaux, des affiches, du papier peint, qui du coup affadit le trait et en font ressortir les quelques défauts. C'est un polar costaud sur les années troubles de notre République, qui doit faire face à un afflux de réfugiés des anciennes colonies, terrorisés par les Rouges à l'Est, mais aussi par ses propres militaires, au sein par exemple de l'OAS. Les militants, les instants noirs de la France, les instants sombres, à une époque où Franco garrottait ses opposants et où les politiques italiens et la mafia se rencontraient au sein de la loge P2. Et ben forcément, à mettre en perspective avec le Carlos d'Olivia Sayas qui a été diffusé la semaine dernière sur Arte, et que du sport a loupé. On est très loin des tontons gaffeurs au langage fleuri des films de Georges Lautner. Là, on tue de sang-froid.
Attends, il y a un petit anachronisme quand même, parce que la loge P2, Litcho Gelli et toute la bande, c'est au début des années 70, en même temps que le début des années de plomb. D'accord.
Oui, tout à fait. Enfin, voilà. Du moins pour le lancement, mais il semblerait qu'il y ait eu des germes dès les années 60, mais sous un autre nom, puisque c'est une loge maçonnique à la base, qui était extrêmement présente à l'époque en Italie, aussi bien de les loges maçonniques de gauche et de droite d'ailleurs.
Oui, mais le
Vas-y, flingue-moi. Oui, vas-y. Fouette-moi avec un bain d'Alloz.
Non. La loge P2, c'était vraiment constitué de cet ensemble de gens qui appartenaient à des loges maçonniques. Mais la loge P2, c'était vraiment un assemblage de gens qui étaient en lutte contre une certaine politique et contre un certain état de fait qui existait en Italie à cette époque-là. Donc c'est plutôt fin des années 60, début des années 70.
Ça faisait mal quand même.
En fait, j'ai inversé mon planning parce que j'avais l'histoire de France avant, et ensuite j'avais ça, et ensuite, après j'avais la garde du sultan. Eh ben tant pis, on le fait dans le désordre. La garde du sultan, on reste, je veux dire, dans les grands démocrates. Aroka Takachiyo et Katsuhiro Otomo. J'y arriverai pas. Je vais recommencer. Donc au scénario, Haruka Takashio et Katsuhiro Otomo au scénario et au dessin Akihiko Takadera. Ça s'appelle La Garde du Sultan. C'est sorti dans la collection Sensei chez Kana. Ça a été réédité il y a 4 ans au Japon en bouquin. Et c'est 3 petites histoires complètes sorties au début des années 80. Dont une par Otomo. Pas encore auteur d'Akira, mais déjà de Domu Rêve d'Enfant. Le petit péché mignon d'Akihiko Takadera. Et dans ses histoires, avant qu'il fasse par la suite, d'après ce que j'ai compris, il est devenu scénariste sur pas mal de dessins animés jeunesse, on va dire. Akihiko Takadera, apparemment, il semble prendre son pied à mettre en scène des losers, des apprentis méchants, particulièrement pitoyables, ou des gars incroyablement dotés d'aucun talent. Sauf que bien armé et avec le concours de circonstances qui va bien avec une telle bande d'abrutis, une telle bande de bras cassés, il transforme immanquablement la ville en champ de ruines. Pas vraiment flic, pas vraiment voyou, ce sont des petits cons qui se la jouent, mais qui sont portés par des événements qui les dépassent. Et ceux qui les ont manipulés sont très rapidement dépassés par leur niveau de connerie. La garde du sultan, c'est 3 histoires. La première, c'est la succession d'un important clan Yakuza qui tourne au vinaigre quand l'un des 2 prétendants a voulu monter un groupe d'action en dehors de la hiérarchie habituelle du crime sur-hiérarchisé au Japon. La deuxième est une bande de motards bien au-delà des fours Rio, mais dont le chef a décidé de raccrocher, et de quelques nostalgiques qui tentent de monter leur bande. La troisième est celle d'une visite officielle au Japon, où le groupe de la sécurité des VIP, des gardes spéciaux, évolue au Premier ministre, doit absolument être pris en défaut pour se débarrasser d'une amitié politiquement gênante. Et si possible, avant que le berbère là, il aille planter sa tente sur les pelouses officielles. À chaque fois, on se demande comment la situation va peut-être se redresser. Et finalement non. Tout va s'aggraver et la conclusion se fera dans un décor de ruines. Akihiko Takadera a dessiné ces 3 histoires entre 1982 et 1984. Ce qui surprend énormément, c'est son style graphique qui aura un écho plus que reconnaissable dans celui des Masamune Shirow du début des années 90. Si vous lisez Apple Seed 3, tome 3 et 4 et les Ghost in the Shell, vous êtes en plein dedans. C'est pratiquement le même trait, c'est flagrant de ce côté-là. D'ailleurs, Takadera semble s'être orienté lui aussi par la suite vers des polars cyberpunk, mais son œuvre est relativement peu connue en France. La Garde du Sultan, c'est dans la collection Sensei chez Kana, dessiné par Akihiko Takadera et co-scénarisé par Haruka Takashiyo et Katsuhiro Otomo, donc auteur d'Akira et de Mon Rêve d'Enfant. Nuit du sport, dès que tu parles de barbouze qui dérive bien. Allez, on va revenir à l'époque où la France était vierge et généreuse, et où les Gaulois gambadaient en se faisant chatouiller le dessous des par les herbes. Pardon.
Où les bardes chantaient attachés dans les arbres.
D'après Jean-Joseph Julot, sur un scénario d'après le bouquin de Jean-Joseph Julot, sur un scénario de Laurent Kessidi et un dessin de Gabriele Parma, l'histoire de France pour les nuls en bande dessinée. Et le premier tome, c'est sur les Gaulois, c'est dans la collection Pour les nuls chez First Edition.
Ouais.
Et voilà. Et oui, je l'ai déjà dit, il y a 2 manières d'aborder l'histoire. Comme une succession d'événements politiques, du type couronnement, guerre, traité, succession au trône, ou en racontant l'histoire quotidienne, les modes de vie, les mœurs, les croyances, la société.
Alors la deuxième méthode est un enseignement moderne qui est entré dans les programmes scolaires courant des années 80 en fait, hein, dans l'éducation nationale en France. La méthode archi classique est celle choisie pour cette adaptation en bande dessinée d'un des plus célèbres d'un de ses célèbres bouquins de la célèbre collection Pour les nuls. Vous savez, le truc avec le panneau noir écrit à la craie sur fond rouge avec un bonhomme à lunettes et un visage triangulaire. Et l'histoire de France pour les nuls, le premier tome s'attache à cette période entre 1700 avant Jésus-Christ et 511 après, c'est-à-dire de notre ère, où la France s'appelait la Gaule, monsieur. Et on a une succession chronologique d'événements qui en ont fait son histoire politique. Mis en scène en bande dessinée, j'ai un peu l'impression de relire les vieux manuels scolaires de l'école primaire, finalement. Et je dois quand même avouer que j'ai appris plein de choses, notamment sur les très nombreuses guerres entre Gaulois avant que les légions romaines n'arrivent avec leurs grandes deux sandales. Graphiquement, ça n'a rien de moche, hein, à part bien évidemment la mascotte de la collection For Dummies, qui jure encore plus dans une bande dessinée qui se veut un petit peu graphiquement réaliste. Forcément, ça ne va pas des masses. Eh ben, on retrouve les rubriques habituelles de cette collection du type « Le saviez-vous » ou « La partie des 10 ». Mais la chronologie politique est une lecture un petit peu aride de l'histoire. Ceux qui aimeraient en savoir plus sur les modes de vie resteront sur leur faim avant d'arriver à la section « La partie des 10 ». Tiens, un point complètement ignoré de ce livre, pour donner un exemple justement de ce manque, eh ben les Romains n'ont réellement découvert la métallurgie du fer qu'au contact des Gaulois. Avant, ils utilisaient des cordes pour ancrer leurs navires et quand ils ont débarqué à Massilia, eh ben, ils ont découvert qu'on utilisait des chaînes de fer pour retenir solidement aux amarres, au port, le navire. Alors, je me demande si ce détail, par exemple, est moins important que le destin des mutins d'Uxelledunum, à savoir Cahors, hein, c'est pas très loin, qui eurent tous les mains tranchées sur ordre de César pour cause de « vous êtes gentils les gars, fallait pas se révolter contre l'ordre établi ». Bon, le tome 2 sera consacré à Charlemagne. Va falloir éviter vos nouveaux amis d'ici là, de peur de les saouler avec vos nouvelles connaissances exclusivement gallo-romaines.
Non, mais attends, parce que il y a quand même des petites choses qu'on apprend dans ce livre.
Je le nie pas. C'est
par exemple l'histoire du bouclier de Brennus. Hein ? Il y a autre chose, c'est que c'est peut-être un bouquin qui est certainement à lire pour pas mal de gens, mais qu'il faut quand même éviter de mettre dans les mains d'enfants assez jeunes. On va dire.
Oui, parce que
il y a certains passages qui sont franchement, on va dire, trash, quoi. Hein, et tu parlais de mains coupées et tout, mais bon, dans le bouquin, il y a autre chose que des mains qui sont coupées, quoi. Hein, qui sont montées sur des pics, d'ailleurs. Hein, c'était une méthode assez originale, hein, de montrer que bon bah on n'avait pas peur, on était les meilleurs.
De management des vaincus, hein, voilà. Victices, comme voilà. On disait à l'époque. Hein. Et d'ailleurs, je savais pas que c'était un Gaulois qui l'avait dit, à mon avis dans sa langue et que les Romains ont retraduit. Et d'où ça venait. Moi, je connaissais seulement l'expression malin vaincu. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. J'ai appris des choses. Voilà. Je le reconnais.
C'est hyper intéressant en plus parce que ça ne se concentre pas sur le microcosme de la société gauloise par rapport à la société romaine. C'est-à-dire
notre coin. On est dans une période qui est assez large.
Mais il y a la partie.
On est sur 2200 ans quand même.
Oui, c'est ça parce que au fond du bouquin, alors là c'est la partie texte, hein, c'est pas illustré, mais ça fait rien. Il y a également le rapport par rapport aux autres civilisations en même temps. Et alors là, on va au Mexique, on va.
Oui, mais c'est tout à la
au
fin.
Au Moyen-Orient, on va partout dans le monde.
C'est deux petites pages de texte tout à la fin.
Oui, mais c'est pas mal parce que ça met en perspective justement quoi notre civilisation entre guillemets par rapport aux autres civilisations qui étaient contemporaines de cette civilisation à l'époque. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est très rare, hein, ce genre de truc. Il faut plutôt aller chercher dans un autre bouquin pour avoir.
Non, t'as des bouquins d'histoire globale et tout ça. Tu en as.
Oui, mais enfin bon, là c'est quand même sympa parce que c'est vraiment très très bien expliqué. Bon, comme dit, hein, c'est pour les nuls, mais bon, il faut on apprend quand même pas mal de choses, hein, vraiment. Et moi, il y a un seul truc que je reproche. Hein, bon, si le graphisme est assez intéressant, on va dire, bon, ben, il est un petit peu passe-partout.
Il est pas moche.
J'aime
le
pas
dessin...
trop les couleurs. Moi, les couleurs me gênent un petit peu.
Ouais, elles sont
délavées comme ça. C'est, je sais pas quoi.
Mais le dessin Gabriele Parma, non, il est.
Non, le dessin en lui-même, bien. Oui. Mais c'est la colorisation, moi, qui m'a un petit peu rebuté, quoi. Mais à part ça, ouais, c'est vraiment bien, quoi.
Il y a pas à dire. Donc Laurent Kézidi qui en fait adapte l'histoire de France pour les nuls sur les Gaulois de Jean-Joseph Julot, excusez-moi. Donc le tout est dans la collection pour les nuls chez First Edition, adaptation en BD. Donc les Gaulois, c'est plutôt intéressant. Bon, j'imagine quand même que la version originelle hein, doit être beaucoup plus épaisse et forcément doit être un petit peu plus costaud. Radio éphémère, il est 89.1 MHz sur les 12h41 et 32 secondes et je me fais engueuler par la régie publicitaire qui me dit t'as complètement oublié la pub. J'en suis franchement désolé, je vais la passer de suite.
Toto dit à sa maman, dis maman, t'as vu, j'ai donné un sucre au chien et il a remué la queue. Et sa mère répond, super, va donner deux sucres à ton père.
C'était la bande-annonce de Scary Movie 4, voilà. Ils sont pas assez rapides hein, les lecteurs.
Voilà.
Et en plus d'avoir les problèmes de prononciation, c'est pour ça en fait que moi et du sport, on a l'impression qu'on chauffote et tout, etc. Ce qu'on essaie de pallier, ce qu'on entend dans le casque, c'est très 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 désagréable. Et je vous jure qu'on va essayer de pendre d'ici là, manière médiévale, l'auteur quand même de nos malheurs. Au cœur de Tricatel, Nick Cave. Goodbye, Marilou.
Tous les mots sont voix qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celle qui ne répondra au que pour rendez-vous. Message électrique contient mille je reçois sur mon écran tout son roman. On s'approche au moudi et je l'interromps en doux. Après aucun coup de marée. sudu mi se tel qui me reçoit jusqu'au petit jour c'est tout de nous quand la crosse d'eau je tape sur mon clavier tous les mots sont accordés avec les doigts. J'envoie ton ennui un message pour celle qui répond au qui pour mon rendez-vous. Goodbye, Mary Lou.
Cave, il fallait bien rendre hommage aux morts. Non, je déconne. Allez, rien à voir. Puisqu'on va parler, en fait, on va commencer avec une série de bouquins autour d'auteurs et tout le reste. Et moi, je voulais commencer par Osamu Tezuka. Une autobiographie un petit peu spéciale. Ma vie manga dans la collection Sensei chez Kana. Tezuka, en fait, est la référence absolue de la bande dessinée et de l'animation au japonaise. C'est lui qui a fait la première série télévisée en animation au Japon. C'est un peu l'union entre Hergé et Disney. Il a créé de nombreux classiques au soleil, au pays du soleil levant, à savoir Astro le petit robot, Le Roi Léon, qui a été repompé par Disney, Phoenix, Black Jack, Les Trois Adolphes, qui est vraiment une œuvre humaniste absolument extraordinaire. Sa production est absolument dantesque par son volume, mais aussi par sa qualité. Et ce livre est une autobiographie, donc je disais un petit peu particulière. Elle est enfin traduite en français. C'est un livre qui est sorti en 1997, soit 8 ans après sa mort. Mais en fait, c'est une autobiographie qui a été compilée, ses conférences, ses interviews qu'il a données, et le tout complété par les témoignages de ses proches. C'est son verbe, son texte, ses expressions, et on le retrouve encore plus humain que jamais. La première chose qui marque dans ce qu'il raconte, ce sont les brimades en tant qu'enfant, qui l'ont profondément marqué. Le thème des sales gosses sera toujours traité d'une manière assez particulière dans son œuvre. Mais l'événement le plus marquant, c'est bien évidemment la guerre et le bombardement d'Osaka. Tezuka, à cet âge, il a quoi? Il a 14-15 ans. Et il voit un massacre aux bombes incendiaires commis par les Américains sur les populations plus ou moins civiles. Et ça l'a définitivement marqué, au point que toute son œuvre parlera du respect de la vie. S'il y a un seul thème commun dans tout cela, c'est bien ça. Après, il y a ses études et sa carrière avortée de médecin, mais aussi son rapport à la science, qu'il considère comme déshumanisante. Si vous n'aviez pas saisi le message dans Astro, le petit robot, ou dans Phoenix, eh ben, je vous invite à relire ces mangas. L'un des épisodes les moins connus de sa carrière concerne sa quasi-faillite personnelle. Menant de front à la fois sa carrière de dessinateur de mangas, mais aussi de réalisateur de dessins animés, son entreprise a manqué de couler, et on est surpris d'apprendre comment il s'en est tiré. Encore, c'est une belle leçon d'humanisme, mais aussi de management de talent artistique et la valeur réelle d'un artiste dans une société économique. Après tout, la bande dessinée, le dessin animé, ce sont des industries qui sont basées sur la reproduction massive d'une œuvre artistique. Osamu Tezuka n'a pas été véritablement connu en France, sinon après sa mort. Et c'est bien dommage, l'auteur se révèle, on le savait, modeste et perfectionniste, et ben là on découvrait qu'il regrettait de ne pas passer plus de temps sur l'éducation de ses enfants. Le livre est touchant, il intéressera ceux qui connaissent l'œuvre immense du dieu du manga, mais passionnera aussi ceux qui veulent comprendre comment les mœurs du Japon ont radicalement changé entre les années 40 et 80. Et là-dessus, eh ben, je ne peux que vous le recommander, parce que vraiment, de ce côté-là, c'est vraiment un bouquin absolument bluffant. Oui, pardon, excuse-moi. c'est la collection Sensei, qui est donc une collection qui est éditée par Kana, qui fait partie en fait du groupe Dargo, hein, étant s'est enrichi de multiples sous-collections qu'on ne peut que classer en fonction du format d'impression, c'est-à-dire il y a le format A5 et format plus ou moins poche, mais je veux dire il y a vraiment il y a des formats couleur. Quasi comics d'ailleurs, mais je veux dire, on a plein de sous-collections différentes, mais ils les ont pas classées, ils mettent juste Sensei, c'est pour adultes. Sauf que là, justement, ça n'est pas oui, j'ai enlevé la surjaquette. Ça n'est pas en fait un manga, c'est un texte, hein, pur et dur. De ce côté-là,
Ouais, il y a quelques images, hein,
on a on a une couverture découpée, un cartonnage solide et une épaisseur relativement raisonnable, hein, 196 pages. Le livre est arrangé dans les biographies et les livres d'analyse de la bande dessinée. Mais voilà, il ne faut pas ignorer quand même que si on s'intéresse qu'aux productions actuelles, ben l'empreinte de Tezuka a marqué encore durablement et toujours les mangakas d'aujourd'hui. Après, ça se dévore littéralement, et on se prend des claques parce que vraiment, quoi, quand il est médecin, apprenti médecin, hein, il est interne dans un hôpital, mais en même temps il dessine, donc il se retrouve à dessiner dans les chambres et tout, de manière plus ou moins clandestine, avec une infirmière qui passait pour gommer, donc il y avait une histoire salace qui tournait autour de lui et tout. On redécouvre vraiment d'une manière extrêmement agréable cet auteur. Après, pour vous faire rapidement son histoire, Astro le petit robot et sa série phare, qui est en fait adaptée à partir d'une affiche du Metropolis de Fritz Lang qu'il a vu qu'une fois, et il a vu en fait le film bien après. Le roi Léo, ben, c'est celle d'un petit lionceau blanc qui est le fils du roi de la forêt, qui a été capturé par des braconneurs et qui a mille et une aventures. Phoenix, c'est celle d'un oiseau qui transporte l'esprit de la vie à travers l'univers, et l'oiseau phénix ne peut mourir, mais tout le monde croit que en buvant le sang du phénix on devient immortel. Blackjack, c'est celle d'un médecin marron au visage balafré, thème que l'on retrouve énormément d'ailleurs. Blackjack, on le retrouve monstrueux dans un nombre absolument incroyable, hein, de bandes dessinées même encore actuelles. Les trois Adolphe, c'est une biographie un petit peu particulière, celle d'un Adolphe qui est un juif allemand qui vit au Japon et qui participe aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, d'un autre Adolphe qui est son copain allemand mais arien et membre du parti nazi, et du troisième Adolphe, forcément, Adolf Hitler. Il y a Cléopâtre, qui est d'abord une bande dessinée et ensuite il a fait en dessin animé, qui a pour particularisme d'être le premier dessin animé pour adultes, puisque c'est un dessin animé porno soft, hein, quand même, au Japon. Il y a une production qui est absolument monstrueuse de ce côté-là. Quand on a voulu faire l'intégrale de son œuvre, alors qu'il était encore vivant, en 1977, à raison d'un ouvrage de 400 pages, je crois, par mois, il a fallu attendre 1983 pour terminer. Et pensant, il faisait l'histoire des Trois Adolphe, et il a laissé une œuvre inachevée qui était l'adaptation de l'Ancien Testament, qui était commissionnée par le Vatican. Puisque tout simplement, le Vatican le considérait comme une œuvre d'un humanisme absolument fabuleux. Et on apprend dans le bouquin pourquoi il a dit non. Pourquoi, en fait, il est resté au stade de pré-production. C'est hallucinant. C'est absolument hallucinant et démentiel. Ma vie manga d'Osamu Tezuka, c'est dans la collection Sensei chez Kana. Et c'est une lecture que je vous recommande. Mais de suite, un petit peu d'autoradio avec de la pop versaillaise.
jusqu'à ce qu'il entame sa croissance vers 12 ans. Le chauffeur était plus petit pour son âge, un attribut que son père ne manquait pas de mettre à profit. Un gosse aussi frêle pouvait se faufiler aisément par des ouvertures étroites, des fenêtres de salle de bain, des chatières, etc., ce qui faisait de lui un assistant de premier ordre dans le commerce paternel, à savoir la cambriole. Lorsque sa croissance survint, le chauffeur poussa d'un coup, sembla-t-il passant d'un peu moins d'1m20 à 1m85 presque en une nuit. Depuis, il était plus ou moins étranger et dans son corps. Quand il marchait, ses bras battaient l'air et il traînait les pieds. S'il essayait de courir, il finissait souvent par trébucher et se casser la gueule. Mais s'il y avait une chose qu'il savait bien faire, c'était conduire. Et il conduisait sacrément bien. Une fois que le chauffeur eut fini de grandir, son père ne lui trouva plus guère d'utilité. Il n'en trouvait plus à sa femme depuis fort longtemps. Aussi, le chauffeur ne fut-il pas étonné de voir, lorsqu'un soir, à la table du dîner, elle attaqua le vieux de coups de couteau à pain et à viande, un dans chaque main, tel un ninja en tablier à carreaux rouges et blancs. Elle lui avait coupé une oreille et dessiné un deuxième sourire en travers de la gorge avant qu'il ait eu le temps de reposer sa tasse de café. Le chauffeur assista à la scène, puis se concentra de nouveau sur son sandwich, pâté et gelé de menthe sur toast, l'essentiel des talents culinaires de sa mère. Extrait du livre de James Salis qui s'appelle Drive. Drive, on en a parlé il y a 15 jours.
Exactement, avec une chronique de Thomas.
Hein, le film donc de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling qui est également en couverture du bouquin. C'est normal, on a ressorti le bouquin à l'occasion, hein, c'est clair. Mmh. Un livre qui est sorti en 2006 même. Dans la collection Rivage Noir, hein, l'excellente collection de François Guérif. Alors, j'ai voulu parler de ce bouquin, j'ai voulu lire ce livre parce que je voulais voir quelle était l'adaptation qui en a été faite par Nicolas Winding Refn au cinéma, sachant que bon, bah, Winding Refn, depuis Le Guerrier Silencieux, est quelqu'un de très contemplatif, on va dire, hein, un petit peu à l'opposé de ce qu'il avait fait un petit peu avant. Et je me suis dit que bon ben forcément quand c'est un bon film c'est qu'il y a une bonne base. Donc il faut quand même lire quelle est cette bonne base. Donc et James Salis qui était un auteur que je connaissais pas du tout vraiment et qui a quand même un certain background, hein, il a pratiquement 65 balais. Il est né en 38, enfin juste un petit peu avant la guerre, il est docteur en psychologie. C'est le traducteur anglais de Raymond Queneau.
Ah oui, quand même.
Oui, non, mais bon, attends. Il écrit des poésies. Il a également deux ou trois thématiques, c'est-à-dire deux ou trois héros récurrents dans ses autres livres qui sont parus un petit peu avant. Il a commencé à écrire dans les années 70. Et James Salis fait un petit one shot, donc qui s'appelle Drive, un bouquin qui est très très facile à lire, hein, qui a même pas 200 pages, hein, il y a 174 pages en tout, donc dans la version française du moins. Donc bon ben de ce côté-là, il y a pas de problème. En plus, l'histoire, bon ben c'est globalement la même que dans le film, mais il y a quand même pas mal de différences parce que James Salis aime bien passer d'une situation présente à une situation passée pour pouvoir expliquer un petit peu les choses. Là où le bouquin est plus riche, naturellement, que le film, c'est bien entendu parce que on explique un petit peu le background du chauffeur. Alors c'est pareil, comme dans le film, bien, on ne connaît pas le nom du chauffeur. Là, dans le bouquin, c'est pareil, on dit c'est le chauffeur avec un C majuscule. Il y a à un moment donné... lors d'un dialogue, eh bien, le chauffeur essaye de dire je m'appelle, mais l'autre le coupe directement, quoi. Genre, non, c'est pas la peine, je veux pas savoir quel est ton nom. Hein, la différence avec, majeure avec le film, c'est que dans le bouquin, le chauffeur est nettement plus volubile quand il parle avec d'autres personnes. Il a d'autres contacts avec des gens qui ont été complètement ignorés dans le film. Il a un copain qui est toubib, un vieux toubib qui a été rayé de l'ordre des médecins parce que bon, il
faut encore un médecin marron. Un petit peu.
Oui, oui. mais qui est retiré à la campagne et puis qui de temps en temps, bon, file un petit coup de main, quoi, pour retaper un bras, pour extraire des balles, des choses comme ça. Il est également copain avec, ça se passe à Los Angeles, donc forcément avec quelqu'un qui travaille dans le show business, un type qui écrit des scénarios et qui arrive à en vivre, mais sans y toucher, quoi. C'est-à-dire que bon, bah, on le connaît pas, c'est pas un scénariste hyper connu et tout, mais il vit quand même vachement bien. Il a son petit loft, sa petite Porsche tranquille. Il paye des coups à tout le monde. Il fait des petites virées comme ça à New York, un petit peu partout. Et la différence, c'est que si dans le film on a voulu avoir une unité de lieu où tout se passe à Los Angeles, en fait, ou dans les environs immédiats. Là, le début du film est ce qui est en fait une des scènes marquantes, une des premières scènes marquantes dans le film, la première grosse fusillade qu'il y a, quand il se rend compte qu'il s'est fait doubler et que, bon bah ok, il y a des types qui viennent le chercher pour récupérer le magot. Le bouquin débute par ça, c'est-à-dire une scène absolument mémorable et tout, mais qui est décrite, et quand on a vu le film et qu'on relit et qu'on lit le livre par la suite, eh bien, on se reprend à revoir la scène telle qu'elle a été filmée. Et là, bon bah, c'est quand même très très fort, parce que bon bah là, dans le film, on se rend compte que Winningreff, il arrive à retranscrire l'intensité qu'il y a dans le bouquin. Et là, c'est vraiment, faut être un bon cinéaste à mon avis pour ça. Mais bon, ça moi personnellement, j'en doute pas de la part de Winningreff. D'autres choses, c'est un petit peu plus riche, bien entendu, hein, dans les rapports avec les personnages, mais la personnalité marquante du chauffeur, hein, est la même. C'est-à-dire que bon ben le film arrive vraiment bien à retranscrire ce qui s'est passé dans le bouquin. Alors évidemment, vous allez me dire oui, mais et ça je parle à ceux qui ont vu le film. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Mais est-ce qu'il crève? Est-ce que comment ça se passe et tout? Bah la fin c'est pareil quoi. En fait, on sait que bon bah il est toujours vivant à la dernière image du film. Là c'est pareil, il est toujours vivant à la dernière page du bouquin. Mais on sait pas où est-ce qu'il va aller, ce qu'il va faire. Par contre bon bah je disais que ça se passait à Los Angeles. Là bon bah il y a des scènes qui se passent un petit peu ailleurs. Ils font une virée. Un débraquage se passe à Phoenix, dans l'Arizona, c'est-à-dire pas loin de la Californie, mais bon, quand même, ça fait un sacré paquet de bornes ou de miles. Bref, un bouquin qui est absolument fantastique de ce côté-là. Moi, je connaissais pas du tout Salis et tout. Je vais m'y intéresser un petit peu plus parce que, bon, ben, c'est un auteur qui mérite d'être suivi. En plus, il y a des références littéraires qui sont pas désagréables. Hein. Bon, ben, il y aura un petit peu en hommage aux types qui sont plus connus hein, dans le polar américain, hein, y a carrément les trucs en exergue, c'est pour Ed McBain, Donald Westlake et Larry Block, donc Lawrence oui. Block. Bon, ok, quoi. Alors tu te dis bon okay. Ben ça va. Après bon bah il y a une ou deux scènes où bon bah quand il a rien à foutre le chauffeur, parce que bon si vous voyez vous avez vu le film, bon bah on a l'impression qu'il glande rien quand il est pas au boulot ou en train de faire un braquage. Il fout rien du tout, il a pas de vie sociale, que dalle quoi, rien. Il est chez lui dans un petit meublé, il change souvent de meublé tous les 2-3 mois pour pas laisser de traces. Et à l'intérieur il y a que dalle quoi, il y a même pas une télé ou à peine. Il met la télé juste pour le son et il passe son temps à lire. Et il lit quoi, bien entendu, des polars.
Voilà, c'est bon.
Donc la boucle est bouclée. Un livre que je vous conseille de toute façon, c'est James Salis. Donc le livre Drive qui est paru chez Rivage Noir, donc, et qui a été réédité pour l'occasion à la sortie du film, donc aisément trouvable en ce moment.
Radio FMR 89.1 MHz, c'est le super week-end. N'oubliez pas, cet après-midi, c'est le TGS Party, si vous êtes sur Toulouse, que vous nous écoutez en direct. Donc, je vous invite à aller voir plus d'informations sur le site TGS Party, party.com. C'est la discothèque, donc Studio One, avec Marcus, Paradra, le joueur du grenier, Coucou Circus, des jeux, des spectacles et plein d'autres choses. Et c'est en attendant donc le Toulouse Game Show qui aura lieu le 26 et 27 novembre prochain. Je sais pas si du sport va y aller tout à l'heure.
Non, je vais installer mon décodeur.
C'est vrai qu'on est le premier samedi du mois. Non, c'est la semaine prochaine. Quelle impatience.
Allez, on continue dans les livres. Et là, ben bon, tu avais une biographie magnifique de Tezuka. Que je vais autobiographie de Tezuka que je vais ranger juste à côté des parce que c'est le même format que les bouquins de la bibliothèque verte. Les couvertures cartonnées.
Bah si tu le veux, il faudrait que je te file j'ai enlevé la surjaquette.
Ah ouais non, mais moi je trouve que c'est très bien là parce que bon bah moi le carton Là, la couverture, elle, vraiment, elle est superbe, avec tous ces petits dessins et tout, quoi. C'est magnifique. On sait pas ce que c'est au départ, c'est ça, quoi. Y a rien de marqué, donc, on se dit, bah ouais, c'est
si,
cool.
Si, c'est marqué, mais sur la surjaquette. Je l'ai enlevé pour pas l'abîmer. Ouais, ouais. Ça aurait été dommage au studio.
Alors, à présent, là, on va revenir un petit peu plus sérieux avec, Tennessee Williams. Et c'est une biographie qui vient de sortir il y a même pas 15 jours, hein. Je crois que le livre est sorti le 19 ou le 17 octobre. Et ça a été écrit par Catherine Fruchon Toussaint dans la, aux éditions Baker Street. Tennessee Williams, le nom est bien entendu connu. C'est un des grands auteurs contemporains, un des grands auteurs américains du 20e siècle, surtout connu d'ailleurs pour ses pièces de théâtre, pour ses adaptations au cinéma. On y reviendra un petit peu plus tard. L'originalité de ce livre, c'est que ce n'est pas une biographie classique. On commence par la naissance et puis on suit chronologiquement, la vie de l'auteur. Là, c'est une chronologie, bien entendu, mais par thématique. Et c'est ça qui est nettement plus intéressant, avec donc différents chapitres qui s'attachent à une particularité ou à une thématique qui est bien entendu propre et récurrente chez Tennessee Williams, avec bien entendu une préface qui s'appelle Levé de rideau. Et ensuite, on a écrire, Paris, amitié, homosexualité, Rose, qui est sa sœur aînée, Italie, père et frère, Edwina et Grande, Edwina et sa mère, Grande, sa grand-mère, maladie, cinéma, ici-bas et là-haut, thématique donc sur les mortels et sur la vie et la mort. Ok, et à travers un boulot, mais alors absolument phénoménal, on se rend compte que Catherine Fruchon Toussaint, de toute façon, elle connaît son Tennessee Williams par cœur, elle a lu et relu en diagonale, en travers, en long et en large, toutes les œuvres, toutes les pièces, tous les poèmes, toutes les nouvelles, toutes les correspondances de Tennessee Williams pour arriver justement à sortir des extraits à chaque fois qui correspondent à l'explication qu'elle va donner sur la vie et sur les situations dans lesquelles Tennessee Williams s'est retrouvé. Donc de ce côté-là, c'est absolument magnifique. C'est un livre qui donne envie de lire justement le reste de l'œuvre de Tennessee Williams pour les gens qui se sont dit OK, c'est un petit peu abrupt, c'est du théâtre au départ. Donc c'est un petit peu chiant à lire, quoi, on va dire. C'est pas comme un roman, mais non, parce que justement, il y a beaucoup de pièces de théâtre qui sont en fait des adaptations de nouvelles au départ, c'est-à-dire des textes assez courts. Bien entendu, faut aussi savoir que c'est assez bien expliqué justement dans le texte et à travers justement de nombreux exemples. Tennessee Williams, quand il écrivait un texte, était en constante réécriture. Ce qui fait qu'on a des pièces ou des films de cinéma dont on a l'impression que ce sont des œuvres finales, mais qui ne sont en fait que des copies de travail,
des versions
qui ont été remaniées, qui ont changé de titre, où les thématiques restent globalement les mêmes de toute façon, c'est-à-dire que Tennessee Williams, bien entendu, c'est les situations entre les êtres, les névroses,
incomplet.
Là, c'est on est en plein dedans, et la description bien entendu de cette Amérique qu'il a bien connue, il est né en 1905 au début du 20e siècle. Alors, c'est marrant parce que il s'appelle Thomas Lanier Williams III, parce que ses ancêtres s'appelaient comme ça, bien entendu, et Tennessee, c'est son surnom. Mais en fait, il n'a vécu que très peu de temps dans le Tennessee.
Oui, c'était un surnom que lui donnaient ses copains d'école, et qui lui restait.
Voilà. C'est-à-dire que il est né dans le Mississippi, le Mississippi, c'est au sud du Tennessee. Ils ont émigré, avec sa famille, ils sont restés 2-3 ans seulement à Nashville dans le Tennessee, et puis ils sont montés un petit peu plus au nord, à Saint-Louis dans le Missouri, parce que il avait une histoire un petit peu compliquée avec ses parents, surtout avec son père, son père avait une histoire un petit peu spéciale avec sa mère, et tout ça c'est retranscrit, alors il faut savoir aussi que sa sœur aînée Rose, qui était un petit peu spéciale, on va dire, qui a été son premier amour féminin, quoi, Tennessee Williams, c'est homosexuel, quoi, qui a été son premier grand amour, mais platonique, bien entendu, a été lobotomisé en 43 sur ordre de ses parents. Enfin ça l'a vachement marqué, plein de choses.
Et surtout abandonné dans un sanatorium, fait, il s'en est occupé qu'une fois qu'il a eu du succès.
Il a eu du succès vachement tôt, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où il a vu ça, qui était plus ou moins considéré comme étant un paria, vu son mode de vie, son alcoolisme et après son abus de drogue, il vivait quand même dans un milieu où ça circulait pas mal, dès qu'il a pu s'en occuper, il s'en est occupé sans problème. Alors Tennessee Williams, bien sûr, c'est également l'auteur de théâtre. Et on va faire un petit peu un topo sur ses trucs les plus marquants. Il commence avec Battle of Angel, qui a été retravaillé et qui, en 1940, c'est sa première pièce en fait, hein, qui est montée aux États-Unis. Et puis ça donne un petit peu plus tard en 43 You Touch Me, mise en scène de Margot Jones qui a d'ailleurs été la metteuse en scène de ses premières, hein, de ses deux premières pièces qui ont eu un petit peu de succès. You Touch Me en 43 avec quand même Montgomery Clift dans le rôle de Adrian, hein, 109 représentations. Ensuite c'est La Ménagerie de Verre, hein, qui est montée en 44 à Chicago, puis en 45 à New York, 561 représentations, à Rome en 46, le metteur en scène c'est Luchino Visconti. En 48, chaque fois ce sont des premières dans les pays. En 48 à Londres, le metteur en scène c'est John Gielgud avec Ellen Hayes qui joue le rôle de Amanda. En 47, une année auparavant, c'est Claude Maritz qui la met en scène et qui joue dans la pièce La Ménagerie de Verre avec Hélène Vita et Daniel Ivernel. Et le film, il y a eu deux versions, la version 1950 que Tennessee Williams n'aimait pas, enfin il n'a jamais aimé d'ailleurs les versions cinématographiques, parce que eh bien les versions cinématographiques eh bien étaient un petit peu censurées, on va dire, hein, là où il y avait une fin qui était vraiment trash et tout. Bon, bah on préférait mettre une fin un peu plus heureuse pour certains trucs, et c'est vrai pour Un tramway nommé Désir, dont je vais parler un petit peu plus tard, hein. Donc la version 50 de La Ménagerie de Verre, réalisée par Irvin Rapper, eh bien avec Gertrude Lawrence, Jane Wyman, Arthur Kennedy et un petit jeune qui débute qui s'appelle Kirk Douglas. Et il y a une autre version qui a été tournée et réalisée par Paul Newman en 87 avec Joanne Woodward, sa femme Karen Allen, John Malkovich et James Naughton. Donc déjà on se dit ouais, c'est pas mal. Le tramway nommé Désir, bon, mais ça c'est le film emblématique, on va dire, hein, que tout le monde connaît pratiquement, même si il y a pas mal de gens qui n'ont pas lu du tout, hein, parce que bon bah ok, hein, le metteur en scène c'est Elia Kazan. En décembre 47 à New York, 855 représentations, 3 récompenses dont le prix Pulitzer, avec Jessica Tandy, Kim Hunter, Marlon Brando qui a 23 ans à l'époque quand il crée la pièce, hein, et qui est en fait un second voire un troisième choix, parce qu'au départ, eh bien, on pense à John Garfield, qui est déjà un acteur confirmé, voire à Burt Lancaster, qui est encore jeune à cette époque-là, mais qui est déjà le jeune premier qui a réussi au cinéma et au théâtre. Et avec Big Nose, Karl Malden. Et on verra plus tard que bon bah le casting reste le même dans le film pratiquement. En octobre 49, à Paris, la première, l'adaptation est de Jean Cocteau et la mise en scène de Raymond Rouleau avec Arletty, dont c'est le retour d'ailleurs à la scène, parce qu'il faut se rappeler que bien Arletty, après la Seconde Guerre mondiale, eh bien,
elle était un petit peu de côté. Faut dire qu'elle avait participé à des productions cinématographiques pendant la.
Non, mais c'est surtout parce que elle avait un amant qui était un officier allemand, hein, oui. surtout quoi. Arletty, Yves Vincent, Daniel Ivernel et Hélène Bossis restent 2 ans à l'affiche quand même à Paris. Luchino Visconti en fait la version italienne avec comme assistant Franco Zeffirelli, et dans les rôles on a Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni et Rina Morelli en janvier 49 à Rome. Et il y a même en 1952, hein, c'est-à-dire 5 ans après la création à New York, à Montréal au Canada, une création d'un ballet d'après Un tramway nommé Désir, hein, dont la chorégraphie est de Bettis.
Ah ouais.
Alors le film, ouais, non mais alors le film donc d'Elia Kazan. Alors Elia Kazan qui quand Tennessee Williams lui a dit bon bah tu vas également réaliser le film, c'est toi qui as fait la mise en scène, il y a pas de problème et tout. Elia Kazan au départ il était pas chaud, et puis il disait bah non mais écoute Tennessee, tu comprends quoi, c'est comme épouser une femme 2 fois quoi, c'est pareil quoi. Puis en fait il s'est quand même rangé à son avis, et puis bien lui en a pris. Alors donc la distribution est exactement la même à la place de Vivien Leigh qui remplace donc Jessica Tandy. Et c'est le film multi-oscarisé, bien entendu, hein, Vivien Leigh meilleure actrice, Kim Hunter meilleur second rôle féminin, Karl Malden meilleur second rôle masculin, et on se dit mais Brando, ben non, Brando pas, mais pourtant il y a un 4e Oscar pour les meilleurs décors, pour Le tramway nommé Désir. Et ce qui a fait dire à Brando à l'époque, l'Oscar et toutes ses récompenses, c'est un objet de merde, si on me donne un Oscar, je m'en servirai comme d'un butoir de porte. Donc ça dépotait pas mal quoi. Et en fait, l'Oscar en 1952, cette année-là, du meilleur ce rôle masculin, est allé à Humphrey Bogart dans African Queen. Bon, alors on peut se dire, bon ben ok. Hein. Après, il y a Rose Tattoo, un film un petit peu moins connu, la Rose Tattooée, mais une pièce qui au départ, eh bien, a été créée parce que Tennessee Williams, lui, il adorait des acteurs, il adorait des actrices, surtout certaines actrices qui sont décrites dans le bouquin, que ce soit des actrices étrangères ou françaises d'ailleurs. Il adorait Edwige Feuillère, par exemple, quoi. Parce qu'il l'avait vu jouer dans quelques pièces et tout, donc il y a pas de problème. Et le Rose Tattoo est créé écrite pratiquement, on va dire, pour une actrice, la grande Anna Magnani, qui a été l'égérie de Federico Fellini un petit peu plus tard, mais qui était déjà très très connue au théâtre et dans les années 40. Et donc la première, eh bien, elle a lieu en 1950 à Chicago, puis en 51 à New York. Le metteur en scène, c'est Daniel Mann avec Maureen Stapleton, Elie Wallach. Elie Wallach, c'est la brute dans Le Bon, la brute et le tueur. Mais oui, mais oui. Et qui obtient donc un Tony Award et 306 représentations. Et Daniel Mann réalise également le film en 55 avec bien entendu Anna Magnani dans le rôle titre de la Rose Tattooée, et elle obtient l'Oscar pour ce rôle avec à ses côtés Burt Lancaster et Marisa Pavan. Puis un peu plus tard, il s'agit de La Chatte sur un toit brûlant. Ça aussi, c'est du Tennessee Williams, oui, avec la mise en scène, bien entendu, en 55, d'Elia Kazan. Et on retrouve Ben Gazzara, Barbara Belguedes, qui est la maman de JR dans Dallas. Eh oui, pour vous situer un petit peu, quoi. Et Burl Ives, donc 694 représentations et le deuxième Pulitzer pour Tennessee Williams, plus deux prix spécial théâtre. À Paris, c'est Peter Brook qui le met en scène en 56 avec Jeanne Moreau, Paul Gers, Antoine Belpétré et Jeanne Marquen. Et le film, il est de Richard Brooks, donc à ne pas confondre avec Peter Brooks, donc Colombien de parenté. Il y a un S en plus. Et c'est le film que tout le monde connaît en 56 avec Liz Taylor, Paul Newman, Burl Ives et Judith Anderson. Un peu plus tard, eh bien, Baby Doll également, un film d'Elia Kazan en 56 avec Carol Baker. Alors, ça, c'est une particularité parce que Baby Doll n'est pas une pièce de théâtre au départ. Baby Doll est une commande des studios de cinéma.
Ah, d'accord.
Parce qu'il faut savoir que avant d'avoir ces pièces adaptées au théâtre, dans la période des années, la deuxième moitié des années 40, de 30-40, pardon, eh bien, Tennessee Williams arrive à se faire embaucher par la MGM comme scénariste.
Comme staffiste scénario, ouais.
Comme scénariste, comme mec qui retravaille les scénarios et tout, quoi. Il a d'ailleurs une scène assez mémorable avec un réalisateur qui lui dit oui, alors tu vois, là, c'est Lana Turner qui joue, et là, les répliques que tu l'as données, elles sont trop compliquées, il y a trop de syllabes dans les mots. Et Tennessee qui lui dit oui, mais bon, attends, je peux pas mettre que des textes avec des mots qui ont que deux syllabes maximum et tout, quoi. Elle dit oui, mais tu comprends, c'est Lana Turner et tout. Enfin bon, un truc assez incroyable. Alors Baby Doll, on y revient à 56 également, un film d'Elia Kazan avec Carol Baker, Karl Malden qu'il aimait beaucoup, et Big Nose bien entendu, hein, et Elie Wallach encore, hein, toujours là, quoi. Et ensuite, eh bien, un autre film un petit peu plus tard, c'est La Nuit de l'Iguane, qui est d'abord une pièce de théâtre sortie en 61 à New York avec une mise en scène de Frank Cossaro avec Bette Davis, Patrick O'Neill et Margaret Leighton, et dont la première n'a pas été aux États-Unis, mais la première, hein, parce qu'il aimait beaucoup l'Italie, hein, il y allait pratiquement régulièrement, pratiquement une fois par année, hein, 2-3 mois. Et la première mondiale de La Nuit de l'Iguane, la pièce, elle a lieu au Festival du Théâtre de Spoleto en Italie, à côté de Venise. C'est, donc, y en a eu deux comme ça, il y en a une autre, un petit peu moins connue, qui n'a été qu'une pièce de théâtre, qui n'a pas été adaptée au cinéma, qui a été également une première mondiale à ce même Festival de Spoleto. Et le film, bien entendu, c'est le film de John Huston en 64, avec Deborah Kerr, Ava Gardner, Richard Burton, Sue Lyon, qui d'ailleurs, eh bien, un petit peu plus tard, un an ou deux ans plus tard, eh bien, reprenait le rôle de Lolita dans le Lolita de Kubrick, la petite jeune. Eh oui, eh ouais. Et voilà, on termine avec la descente d'Orphée, hein, parce que bon, ben, bien entendu, la première fois qu'il est monté à Paris, alors il est monté à Paris une première fois quand il était jeune avec son grand-père, c'était dans les années 20, fin des années 20, milieu des années 20, et ben, il a vraiment flashé, il a halluciné, quoi, hein, et donc il s'est toujours dit, ben, quand je pourrai, je reviendrai à Paris. Il faut savoir que d'ailleurs, une de ses pièces, un de ses textes, Un doux oiseau de jeunesse, eh bien, la traduction française est de Françoise Sagan, qui est devenue une de ses super copines à chaque fois qu'ils montaient à Paris. Bon, bah ok, c'était avec Françoise Sagan, ils partageaient leur débauche, leur délire, hein, ça c'est clair, mais ils travaillaient aussi très très bien ensemble, Françoise Sagan, qui l'a tout le temps défendu, parce que à partir de des années 60, on va dire fin des années 60, Tennessee Williams est plutôt considéré comme un has-been, comme quelqu'un qui bon, bah, n'a plus rien à voir avec ce qui a fait sa renommée.
Enfin, il est considéré comme étant une telle loque humaine, etc., que des fois, à ce qu'il paraît, il était pas présentable.
Non, mais disons, il se donnait aussi des fois un certain genre, quoi. C'est-à-dire, il paraissait comme ça, bourré comme une vache, ou Tennessee Williams, c'est également lui qui a été le président du festival de Cannes en 1976. Hein, voilà, et il n'a pas été d'accord avec le film qui a été primé cette année-là. Hein, il n'aimait pas du tout, et pourtant, cette année-là, c'était Taxi Driver.
Ah ouais.
Voilà, bon, il n'a pas été d'accord, hein, mais bon...
Bon, d'un autre côté, ça se comprend, parce que c'est extrêmement différent comme style. Mais...
Absolument, ça n'a rien à voir, donc pour lui, c'était... c'était pas bon du tout, hein, de toute façon, quoi. Enfin, il avait de toute façon une relation très, très ambiguë avec le cinéma, de toute façon, depuis le départ. Alors, La descente d'Orphée, donc, également créée en 57 à New York par Harold Klurman, avec Maureen Stapleton et Cliff Robertson, qui a donné... le film sous un autre nom, The Fugitive Kind, ou L'homme à la peau de serpent, de Sidney Lumet, en 1960, avec Marlon Brando, Anna Magnani, mais là, bon, bah, déjà un petit peu plus vieille que dans La Rose Tattoo, et Joan Woodward, et en fait, L'homme à la peau de serpent, bon, c'est un mec qui arrive dans une ville, et qui va foutre le bordel, qui va brancher les nanas, qui va monter les gens les uns contre les autres et tout, mais qui va se faire dégommer à la fin et tout, quoi, bon, c'est un petit peu... sa façon de voir, de revisiter le mythe d'Orphée, en fait, hein, à Tennessee Williams, donc l'homme à la peau de serpent. Et là, ça démontre bien, parce que cette pièce avait au départ un autre titre, puis ça a été appelé La descente d'Orphée, puis The Fugitive Kind. On voit bien là le cheminement et le travail continu, la réécriture continue qu'avait Tennessee Williams sur ses pièces de théâtre avant d'arriver à quelque chose. Il faut aussi dire que Tennessee Williams était homosexuel, ça, on sait, sa première expérience, il l'a vécu en 1928 dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Hein, bon, d'accord. Ça s'invente pas, mais pourtant il n'a jamais fait son coming out avant 1970, alors que bon, c'était de notoriété publique de toute façon, hein. Et ça a un petit peu participé un petit peu, quoi, à cette espèce de dédain qu'on avait par rapport à Tennessee Williams et tout. Faut dire qu'il a été massacré également par ses collègues, hein. Truman Capote, qui est un autre écrivain, bon, connu pour son homosexualité, avec qui ils avaient fait des teufs ensemble, des orgies dantesques en Italie, eh bien, a commencé à le massacrer, par écrit, dans les critiques qu'il faisait au début des années 70. Donc, Tennessee Williams est mort en 84, donc, mais n'a jamais arrêté d'écrire, et on n'a jamais arrêté d'essayer de monter ses pièces. Ses pièces n'avaient plus de succès après, hein. Il y a même eu des pièces qui ont été créées et qui ont été arrêtées au bout de 15 jours ou 30 représentations parce qu'il n'y avait pas de public, il n'y avait personne. Pourtant, c'était Tennessee Williams quand même. Et c'est après sa mort, eh bien, qu'il y a eu un regain d'intérêt pour les pièces montées par les pièces écrite par Tennessee Williams, et il y a eu un nombre incroyable de versions de pièces qui ont été montées, dont rien qu'en France, la majeure partie des acteurs qu'on connaît, hein, qui ont tourné dans les films, qui sont des réguliers du théâtre, mais ont au moins joué dans une pièce de Tennessee Williams, hein, pour dire, hein, tout simplement, quoi. Voilà, donc tout ça dans ce livre de Catherine Fruchon-Toussaint qui s'appelle Tennessee Williams, une vie, paru aux éditions Baker Street, donc sorti de oui, un petit peu moins de 10 jours, à peine 10 jours, donc, mais vraiment un bouquin passionnant, très très passionnant.
Tito par The Eyes, B is for Brutus, c'est le Supplément Week-end sur Radio FMR.
The Rave. B is for Brutus.
Waouh, la transition qui tue.
Pour une fois que ça merde pas en technique. Hein.
À l'aise, à l'aise. Alors, la télé à présent avec quelques séries. Bah, il y a deux de l'inédit et c'est pas mal. Et en plus, ça a l'air très intéressant. Hein. Déjà, la saison 2 de The Good Wife. On avait bien aimé la première saison, franchement. Hein. Bon, bah, dubitatif au départ, au lancement, parce que bon, ben, un sujet un petit peu rebattu, on va dire, avec déjà des acteurs confirmés. Donc, on s'est dit, bon, bah, ça va être un petit blockbuster comme ça, sympathique des familles. Mais, il s'avère que, eh bien, c'est quand même assez bien écrit, quand même. Et bah, les intrigues comme ça, qui sont récurrentes, les fils rouges. Ils sont nombreux, hein. Il n'y en a pas qu'un ou deux. C'est ça qui est assez intéressant dans cette série. Font que, bah, on s'attache à suivre cette série du début jusqu'à la fin. Bah, c'est sûr qu'il vaut mieux parce que sinon, t'es un petit peu perdu au bout d'un moment, hein. Ça, c'est clair. Mais, ça le fait. Et en plus, bon, bah, la saison 1 qui s'achève et qui te laisse un petit peu sur un air de, mais qu'est-ce qui va se passer après? Mais j'ai envie de savoir ce qui va se passer après. Donc, l'envie vraiment de mater cette deuxième saison de Good Wife, donc avec Juliana Margulies qui est dans le rôle titre et qui a d'ailleurs obtenu pour son rôle l'Emmy Award de la meilleure actrice, hein, qui a, alors là c'est pas mal parce qu'on s'attendait pas du tout à ce que ce soit elle qui l'ait en face des autres actrices nommées, hein, parce que bon, ben, il y avait quand même du lourd,
oui, faut oui, dire,
dans des grosses séries.
Il y avait du monde, hein, cette année.
Dans des grosses séries, hein, qui avaient nettement plus de succès, plus d'audience que The Good Wife, qui a fait des bonnes audiences, mais sans plus, hein, qui casse pas la baraque. Et quand même, bah, c'est elle qui chope, cet Emmy. Bon, c'est pas mal, c'est sympa. Alors, dans la saison 2, bah, ça va un petit peu continuer, toujours, dans la même veine, avec, bien sûr, eh ben, du fait que la série a bien fonctionné et que ben elle est bien regardée, ben quelques petites apparitions et des rôles récurrents tenus par des acteurs et des actrices qu'on aime bien, hein, qu'on avait déjà vu dans d'autres séries. Là déjà le retour de Michael J. Fox à la télé dans The Good Wife, hein, qui avait dû arrêter Spin City parce qu'il avait un problème.
Il pouvait plus.
Problème de santé, on va dire. Hein.
Et que les républicains ont dit qu'il simulait, hein, puisqu'il avait fait campagne au niveau démocrate là-dessus.
Ok, hein, ça
c'était pas très fin, hein.
Ouais, on va dire entre guillemets cette bonne guerre, mais bon, c'est comme ça, c'est les États-Unis. Et il y a également dans la venue dans la saison 2 de America Ferrara. Ugly Betty, donc alors là vous allez voir sa vraie gueule, donc pas maquillée et tout, enfin pas transformée,
pas en lady quoi.
Alors bon, ça peut le faire aussi. Donc, et, par contre, la mauvaise nouvelle, bon, c'est pas que ça passe sur M6, la saison 1 passait déjà sur M6, mais c'est que pour le lancement de cette saison 2, c'est 4 épisodes à la suite.
Oh non, mais c'est de l'abus.
Eh oui, c'est comme ça. Bon bah ok, on fera avec. Sur TPS Star, mercredi prochain à 20h40, c'est la nouvelle série de Sean Ryan, The Shield, qui s'appelle Chicago Code. Encore une série policière, bien entendu. Et on est à Chicago. Et encore un petit casting assez sympathique avec Jennifer Beals, qu'on avait vu dans Flashdance, bien sûr. Mais ça, c'est une autre vie. On l'a vu dans Hellworld aussi. Jason Clarke, qu'on a vu au cinéma dans Public Enemy, qui est un bon acteur. Delroy Lindo, hein. On va pas dire le blague de service, mais presque. Todd Williams et encore beaucoup d'autres dans cette série qui va suivre les démêlés en un groupe d'inspecteurs dans cette bonne ville de Chicago, entre flics pourris, politiciens corrompus et dealers de bas étage. Bref, on va voir quel est le traitement qu'en propose Sean Ryan. C'est mercredi prochain sur TPS Star à partir de 20h40. Et la petite découverte qui sera peut-être la bonne découverte de la semaine, c'est sur France O, mercredi prochain à 22h50. Encore une série policière, vous allez me dire, mais celle-là est mexicaine, interprétée par Juan Pablo Medina, 20 épisodes de 45 minutes, où Juan Pablo Medina qui enquête sur un petit, simple, on va dire, meurtre dans le métro, et bien se rend compte qu'il y a une espèce de complot scientifico-pharmaceutique qui se trame. Bref, ça peut être une bonne surprise quand même. Et puis bon, on n'a pas tellement l'habitude...
thème qui est relativement sensible hein, au Mexique actuellement, puisqu'il y a eu, un scandale récemment de d'essais cliniques qui, sur lesquels ben, les populations visées n'avaient pas été prévenues.
Ouais, ouais, mais bon, quand on a des trucs qui nous arrivent du Mexique, généralement c'est plutôt des novellas, quoi, tu vois, ou des trucs comme ça, quoi.
Oui,
donc
c'est
là,
vrai que, soit les novellas, soit les séries historiques, et c'est vrai que mais, voilà. T'en as, mais des novellas sur chacun des 5 grands réseaux, tu dois bien en avoir.
Bon. Ouf.
6 ou 7 heures par jour.
Voilà, c'est ça. Donc
c'est
là, bah,
rarement des rediffs,
hein. Ça peut être une bonne surprise. Donc, hein, puisque généralement France O ne diffuse pas tellement de séries, mais ce qu'ils choisissent, c'est pas mal.
Il y a quand même des trucs qui sont pas mal, ouais. Bon, The Wire, par contre, gros problème, hein,
c'est très tard.
C'était très tard et le nom sur écoute et en plus, c'est un VO, c'était un petit peu rigide, un petit peu dommage. Mais bon.
Bon, mais ça passe bien quand même.
Ça passe bien. C'est sur la TNT, c'est sur tout ça.
Ouais. Ouais, ça passe quand même bien, quoi. Alors, j'avais déjà parlé de cette série de téléfilms sur Arte. Eh bien, c'est le retour avec un téléfilm très récent. C'est allemand. Ça passera vendredi prochain à 20h40 avec l'inspecteur Prohacek, interprété par Senta Berger et Rudolf Krause, son fidèle second. Et là, eh bien, Senta Berger, Prohacek, va en Italie. Et va enquêter sur une série de meurtres qui ont été commis. Le premier, on balance quelqu'un par-dessus bord d'un bateau, classique. Mais bon, c'est l'enchaînement des cadavres. L'enchaînement des cadavres qui va poser un petit problème. Alors, double jeu, donc ce téléfilm tout récent, hein, 2011, réalisé par Aelron Goethe, avec donc Senta Berger, Rudolf Krause et Sarah Mazouche et Emilia De Marchi. Voilà pour donc les séries. Quelques films à présent. Avec quelques thématiques. Alors aujourd'hui que dalle. Demain sur Canal Jimmy, thématique polar français des années 50. Et là, bon, c'est du lourd parce que c'est de l'adaptation de roman de la série noire. Tout d'abord à 20h40, Touchez pas au Grisby de Jean Becker avec Ventura, Gabin, Jeanne Moreau, Robert Darry. Suivi de à 22h25 Le Rouge Émis de Gilles Grangier en 57 avec le même couple Ventura Gabin mais avec Annie Girardot et Paul Francoeur. Alors là c'est bon bah hein, c'est du top, c'est du 5 étoiles là, il y a pas de problème avec quelques petites répliques qui tuent et tout quoi. Donc c'est une adaptation de Simonin donc déjà au départ dans les bouquins le langage est bien fleuri. Hein, à la limite, il y a des trucs que tu comprends pas parce que bon, bah, ils parlent en verlan, ils parlent en javanais et tout.
Ouais, c'est plutôt javanais et tout ça. C'est tous les louchbèmes et tout le reste.
Ouais,
c'est tous ces argots de métier qui ont dérivé vers les apaches et tout le reste.
Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que bon, bah, dans un des deux bouquins, il y a un glossaire à la fin qui permet de comprendre. Parce que sinon, il y a des pages où tu comprends rien. Non, mais c'est vrai, en plus, ouais. Donc c'est demain soir sur Canal Jimmy, hein, Touchez pas au Grisby et Le Rouge Émis. Vous pouvez aussi vous faire demain soir sur Ciné Plus Club à 20h40 Vidéodrome de Cronenberg si vous l'avez jamais vu parce que bon là quand même c'est
longue vie la nouvelle chaîne.
James Woods, Debbie Harry, ça vaut le coup quand même. Sur TCM il y a également L'Appât, un excellent western d'Anthony Mann avec Janet Leigh, James Stewart et Robert Ryan. Et sur Polar, eh bien peut-être un petit polar anglais comme ça à découvrir parce que déjà on découvre un jeune acteur qui allait devenir célèbre après dans une série qui s'appelle Les Hommes de l'Uncle et qu'on voit toujours dans NCIS, David McCallum en 1961 dans un film de Charles Saunders qui s'appelle Criminal Sexy avec à ses côtés de David McCallum, Jill Ireland, histoire de maître chanteur et de hold up.
Et après, il a fait que des rôles de russe.
Ah bah oui, mais ça, vu la tronche.
Ah, il est blond platine.
Ouais, les yeux bleus. Bon. Lundi sur Canal Plus Family, on en parlait la semaine dernière. Eh bien, il est là, Ghostbusters 2, avec Ernie Hudson, le film d'Ivan Reitman. Et c'est le seul film de la semaine qui a trait avec l'événement de ce soir et du week-end. Un monstre pour Halloween de Alex Zamm en 2007 avec Alex Vincent Reed et Michel Duffy. Sinon lundi, ça c'est lundi donc sur Canal Plus Family après Ghostbusters. Sinon lundi également sur FX Dark Star qui est le premier John Carpenter en 1974.
Avoir un film d'étudiant littéralement hein, puisque c'était son film de qu'il a fait à la fin de ses études et puis moi ultra minimaliste avec un humour noir mais alors magnifique, rien que le discours des bombes des bombes robotiques est à pleurer de rire. Franchement, si vous l'avez pas vu, c'est un grand moment.
Alors mardi, ben on est en plein dedans de toute façon. Depuis mercredi dernier, ben profitez-en, regardez les premiers, hein, regardez les premières adaptations. Ça vaut le coup. C'est sur NT1 à 20h40. Tintin et le mystère de la Toison d'or de Jean-Jacques Vienne en 61 avec
Talbot,
Jean-Pierre Talbot, rappelez-vous. Et surtout dans ce film là, Haddock est interprété par George Wilson. Donc,
oui, tout à
attention,
fait.
Attention.
Tout quoi. À fait, tout à fait.
Il y a également Charles Allen.
C'est d'ailleurs sur ce tournage-là où Hergé était arrivé sur le plateau et il y avait le gamin de l'actrice qui était censée jouer la Castafiore, je crois, je sais plus où, c'était peut-être dans Les Oranges Bleues, qui a la Castafiore, et il dit alors gamin, ça te fait quoi de voir Tintin en vrai? Wouf. Haddock, il parle pas comme dans les BD.
Il y a également Dario Moreno et Charles Vanel hein, dans La Toison d'or. Et c'est suivi par...
Eh bien, scénario de Greg. Hein. On oublie de le dire d'ailleurs, comme le dessin animé Le Lac aux Requins.
Et à 22h30, donc justement, tu le citais juste avant, Tintin les Oranges Bleues. Le seul film qui n'est pas tiré d'un bouquin de Tintin. Hein, c'est un scénario original, en fait.
L'île aux Requins aussi. Là,
oui, mais c'est
celui,
le premier.
Celui
hein.
que tu disais aussi n'est pas...
Voilà, La Toison d'or quand même.
La Toison hein, d'or,
bon,
non,
bah, c'est quand
non,
même
non,
adapté.
Hein, original.
Moi non, c'est quand même adapté de plusieurs bouquins, de plusieurs BD. Alors que Les Oranges Bleues, c'est vraiment un scénario original. Avec toujours Jean-Pierre Talbot, Jean Bouise, Félix Fernandez. Et celui-là, il date de 64. Donc
à savoir que Talbot a été invité évidemment pour l'avant-première du Tintin avec Spielberg et tout ça. Mais il a arrêté là sa carrière cinématographique.
Ah, ouais,
hein,
ça,
il a fait
clair.
Que ça. Il est redevenu enseignant par la suite et donc voilà, il a continué à enseigner le français à des petits Belges.
Allez, mercredi, il y a également encore une adaptation. Vous en pensez ce que vous voulez. D'une bande dessinée sur Ciné Plus Premier à 20h40, c'est le Lucky Luke de James Hutt avec Jean Dujardin, Michael Youn, Melville Poupeau, Testure. Ou alors.
Non, franchement, je l'ai vu et tu retiens qu'une chose. Les superbes décors de la Patagonie.
Ok.
Et c'est tout.
Ou alors, sur Ciné Plus Frisson, mercredi prochain, également, à 20h40, Aeon Flux de Karine Kusama, qui est également un petit peu dispensable, on va dire.
Oui. Adapté, donc, de la série télé qui était commissionnée par MTV, de l'auteur sud-coréen que l'on a interviewé. J'ai oublié son nom.
C'est pas grave. Jeudi sur 13e rue. Alors là, on retourne au polar, un petit peu pur et dur et tout quoi. Téléfilm, mais qui se laisse regarder avec plaisir. C'est Sniper, la dernière mission. Et ce n'est plus Tom Béranger. Non, mais on y gagne au change, à mon avis. Réalisé par Armando Mastroianni, le fils de James Remar, qui reprend le rôle avec Mario Van Peebles et Catherine Marie Stewart. Donc ça le fait quand même. Sur Ciné Plus Classique, là, ça vaut le coup. Ciné Plus Classique, ils sont dans une thématique les films on va dire pas les films sur la route pas les films de poursuite, mais enfin c'est un petit peu le thème hein,
les road movies,
pas vraiment les road movies, parce que tous les films qui sont proposés ne sont pas tous des road movies.
D'accord.
Alors là, ça s'appelle The Shooting. C'est un western de Monty Hellman en 67 avec Willie James, Warren Oates, Jack Nicholson et Millie Perkins. Alors là, c'est pareil, tu vas me dire c'est un road movie quoi, parce que ils suivent une piste, mais ils sont à cheval, quoi. Ils sont pas en bagnole. Alors, road movie, moi, ça me fait plutôt penser aux bagnoles, aux camions, quoi. C'est pour ça que bon, c'est pas vraiment dans le même trip, quoi. Mais pourtant, il y a toujours cette obsession pour les beaux paysages, pour les travelling, et tout ça, quoi. Et c'est Monty Hellman, en plus, hein, réalisateur indépendant américain, qui a eu l'honneur de la Cinémathèque il y a pas si longtemps que ça, hein.
Oui, tout à fait. Ouais.
Disney Cinémagic, jeudi prochain à 22h30, un singulier directeur de Richard Butler avec un certain Kurt Russell, qui à l'époque était tout jeune, Harry Morgan et Heather North, et qui joue le rôle d'un assistant d'une équipe de télé, qui a un don un petit peu spécial, c'est qu'il peut prévoir les audiences que vont faire les émissions. Et donc, il est catapulté.
Oh là là, TF1 le recrute immédiatement.
Il est catapulté directeur des programmes. Bah ouais, normal.
Bah quoi. Oui, logique.
Ah ouais, logique. C'est sur Disney Cinémagic, jeudi prochain à 22h30. Sinon, sur Direct Star, si vous l'avez jamais vu, c'est un des derniers, bon, Brian De Palma, L'Impasse, Carlitos Way, avec Pacino, Sean Penn, Luis Guzman, Penelope Ann Miller, bref, bien quoi, vraiment un super film en 93 qui ressemble un petit peu, il y a des réminiscences avec Scarface quoi, bien sûr hein, parce que ouais, c'est Pacino.
Il s'est toujours autorecité, si tu prends aussi le fantôme de l'opéra, il a recité plus d'une fois dans Mission Impossible et tout. À force, c'est un petit peu pénible, hein, parce que ce sont des tics que l'on retrouve trop souvent, mais voilà, c'est la signature, hein, de toute façon, de Palma.
Non, mais dans ce cas précis, si tu veux, quoi, ce qui est intéressant, c'est que bon, bien sûr, il refait un petit peu le même truc, hein, la montée puis la descente aux enfers du personnage principal. Alors que bon, bah dans l'impasse, on sait dès le départ pratiquement que bon, de toute façon, il va jamais y arriver. Mais par contre, bon, la narration, l'ensemble du casting est vraiment très très juste. C'est un film qui est vraiment absolument magnifique de toute façon pour moi, hein, qui est peut-être même un petit peu meilleur que Scarface, quoi. Hein, au niveau cinéma pur, quoi, de toute façon. Donc ça c'est mercredi prochain sur Direct Star, l'impasse, donc de Brian de Palma. De toute façon, bon, les autocitations, ça a toujours existé dans le cinéma, oui, ça existera toujours, hein, ça y a pas de problème, quoi. Vendredi, on termine avec sur RTL9, bien sûr, dans la case asiatique de la deuxième partie de soirée de RTL9, un des fleurons du cinéma asiatique, un des films qui a inspiré tous les grands réalisateurs actuels, Tarantino en tête, c'est La Rage du Tigre de Chang Che,
yeah,
avec David Chang en 71, Ti Lung, Kung Fei. Alors déjà, rien que le casting, tu dis yeah, ça vaut le coup. Et donc c'est sur RTL9 vendredi prochain à 22h20. Sinon, allez, une bonne bouse quand même, parce que j'en ai pas cité de bouse. Eh oui, et celle-là, elle est pas mal, elle est assez magnifique.
Hein. Et elle sent bon.
Et d'ailleurs, Jack Perez, il nous a fait, c'est lui qui nous avait fait l'histoire du tsunami qui réveille les requins préhistoriques sur Malibu. Hein. Ah ouais. Malibu Shark Attack, c'est lui aussi, je crois. Jack Perez. Et là, il s'agit encore d'un film de requins, bien sûr. Mega Shark versus Giant Octopus. Ah ouais. Avec Mark Engst, Lorenzo Lamas, Deborah Gibson et Vic Chao. Vic Chao, quand même. Hein.
Et pas mal de commerciaux vicieux à la pré-production.
Eh ouais. On termine avec un bon Western Spaghetti sur Action. C'est vendredi prochain. À 21h, Navajo Joe de Sergio Corbucci en 66 avec Burt Reynolds quand même et Aldo Sambrel sur la chaîne Action vendredi prochain à 21h.
Et voilà qui conclut l'émission numéro 294 du supplément week-end. Mais bien évidemment, du sport, est-ce que je te demande si oui ou non tu pourrais faire un résumé pour ceux qui ont suivi le programme en FM ou en stream en cours de route ou qui ont écouté en diagonale le podcast?
Si vous avez loupé tout ça, vous avez loupé une coquille de mousquetaire pour éviter des lames dans les couilles. Vous avez loupé un anachronisme italien qui a fait perdre son japonais à Xavier. Une technique qui laisse à désirer et surtout deux biographies d'authentiques génies.
Non, d'une journée bien pluvieuse. Vous avez manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi retrouver nos chroniques écrites, comme par exemple Moonlight Mile, donc le bouquin par du sport qui avait été revu aux éditions Rovage tout récemment. Été indien pour la mini, qui était une BD assez rigolote, mais aussi un heureux événement qui a été publié aujourd'hui par Ultimatum sur son blog. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site
Drive
web
qui va sortir.
Qui va sortir aussi Drive aussi. Oui, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.fr, supplémentweekend sans accent ni tiré.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Boostolfun et en continu sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, figurez-vous que Thomas et du sport vont se débrouiller tout seuls. C'est pas sûr que je sois là. Il va falloir que vous démerdez avec le marrant pour m'enregistrer l'émission et correctement, s'il vous plaît. Mais il y aura aussi, je ne sais pas. Voilà, donc moi je vous donne rendez-vous le 12 novembre avec Guillaume Bouzard. The Autobiography of Me sera en direct. Et n'oubliez pas, donc, il y a les copains du TGS qui organisent leur TGS party, c'est au Studio One, donc c'est jusqu'à 22h, très payante. On avait des places à faire gagner quand même la semaine dernière. C'est un peu un apéro avant ce qui va arriver le 26 et le 27 en direct sur cette antenne. Ciao, bye bye.